Il est 8h13 sur Radio Panique. Vous êtes bien à l'écoute des promesses de l'aube et en ce lendemain de 8 mars, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Rouclou et Vanessa Daugue. Bienvenue à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour, merci.
Vanessa, vous êtes chargée d'études au service d'études de vie féminine et Amélie, vous êtes historienne au CAROP, donc le CAROP étant le centre d'animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire qu'on a déjà eu plusieurs fois le plaisir d'accueillir dans cette matinale du mercredi. Aujourd'hui, si je vous ai invité, c'est pour un peu fêter un anniversaire et donc c'est pour célébrer les 100 ans de mobilisation féminine de vie féminine, donc organisation féministe dont on connaît les actualités, mais dont on connaît peu l'histoire. Et donc, vous avez en collaboration, donc Vie féminine et le CAROP, sorti un magnifique ouvrage de 300, c'est un beau bébé, comme on dit, hein, 352 pages, je pense, qui retrace justement les 100 années d'activité de Vie féminine depuis leur début en tant que ligue féminine jusqu'à l'actualité plus récente. Bienvenue, merci d'être venu et peut-être pour commencer, nous raconter un peu comment a germé ce projet, comment a germé un peu cette collaboration entre vos deux organisations pour et comment on débute une recherche de cette ampleur sur un mouvement qui fête ses 100 ans.
Le projet a débuté fin 2019, début 2020. Vie féminine a contacté le CAROP parce qu'elle était l'association était intéressée à l'occasion de ses 100 ans de faire un arrêt sur son histoire, de un peu se replonger sur tout leur parcours depuis leur création. Et donc, Vie féminine a contacté le CAROP et donc on a commencé un peu à discuter, à voir un peu déjà qu'est-ce que Vie féminine connaissait de son histoire, quels étaient un peu les éléments sur lesquels qu'elle voulait creuser, qu'elle voulait découvrir plus profondément. Et donc voilà, on a un peu discuté de tout ça et puis après on a lancé les premiers comités d'accompagnement pour un peu se plonger dans les archives. Faire les retours avec l'association.
Oui, à l'occasion de ces 100 ans, on a vraiment voulu transmettre l'histoire aussi du mouvement des plus anciennes aux nouvelles arrivées. Et du coup, on s'est tourné vers le CAROP parce qu'on avait déjà travaillé avec le CAROP pour le traitement de nos archives. On savait qu'il y avait une richesse dans nos archives et aussi le CAROP a vraiment cet objectif de mettre les acteurs et ici les actrices de l'histoire au cœur. Et avec le CAROP, on a eu cette occasion de poser nos propres questions à notre histoire, d'aller fouiller là où ça nous intéressait et de le raconter aussi avec la voix des actrices. Et notre postulat de départ, c'était vraiment de se dire, tiens, si le mouvement a 100 ans aujourd'hui, c'est pas forcément uniquement en raison de structures super fortes ou de résistance au temps, c'est parce qu'en fait des femmes ont participé, y ont trouvé un intérêt et se sont fait passeuses. Le mot passeuse est vraiment essentiel dans toutes les activités des 100 ans parce qu'il y en a eu plein, il n'y a pas eu que le livre. Elles se sont fait passeuses de combats, de droits, de liens, de solidarité et on voulait vraiment aller retrouver ça et que les pratiques des plus anciennes arrivent aux plus jeunes. Il y avait aussi un autre objectif quand on a été vous voir, c'était aussi d'avoir une nouvelle somme de connaissances qui peut expliquer l'histoire assez complexe de Vie féminine et assez étonnante, avec des tournants assez étonnants, et de pouvoir en parler dans toutes ses nuances aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte durant tout le processus de cette année où on a parlé de notre histoire, que notre histoire étonne. Et donc, on a demandé donc que ce soit, enfin, il y avait plusieurs voies possibles avec vous, le CAROP, mais on s'est mis d'accord sur un livre qui répondait à notre objectif de se poser vraiment en profondeur dans les archives et de laisser une trace pour le futur.
Et donc effectivement, ce livre, il est magnifiquement documenté. Donc il est plein d'images, de photos, d'archives, de vieilles affiches. Et donc, est-ce que ça a été facile? Est-ce que justement toutes ces affiches, tous ces documents étaient facilement accessibles? Est-ce qu'il y a déjà cette façon? Enfin, est-ce que le mouvement, les femmes du mouvement avait gardé tous ces souvenirs?
Vie féminine a gardé énormément de documents, effectivement. Après, ça a demandé quand même tout un travail de recherche, de retrouver où étaient les documents, justement. Pour les iconographies, pour la période d'après-guerre, on a beaucoup travaillé aussi avec l'archiviste de Vie féminine, qui a été retrouvé les photos, qui les a mis en correspondance avec les articles du journal Vie féminine, qui aujourd'hui s'appelle Axel. Et donc voilà. Heureusement, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'iconographie dont on s'est saisi pour mettre vraiment en image l'ouvrage. On tenait vraiment à ce que l'ouvrage soit visuellement très, très attrayant et qu'on puisse lire l'ouvrage de plusieurs manières. Donc, on peut lire de manière linéaire, mais on peut aussi rentrer dans l'ouvrage en passant par les iconographies, les images. Et on a fonctionné de la même manière pour les témoignages. Vie féminine a vraiment eu le réflexe de conserver la mémoire et la parole des militantes et des dirigeantes. Et donc, on a retrouvé beaucoup d'interviews de ces personnes-là et qu'on a mis du coup en exergue dans l'ouvrage pour pouvoir aussi parcourir l'ouvrage via la voix des femmes et des dirigeantes.
Et justement, vous l'avez organisé de manière très didactique aussi. Il y a des petits icônes qui renvoient, qui montrent que c'est des infos particulières, des témoignages, des petites biographies des femmes qui ont marqué le mouvement. Et vous l'avez réparti, vous l'avez structuré en différentes parties, chronologiques, donc, qui marquent des périodes spécifiques du mouvement, que c'est des périodes charnières aussi, qui peuvent être définies d'une certaine manière par un mode d'organisation particulier ou des enjeux particuliers pour les femmes à ce moment-là.
C'est ça. Donc il y a quatre effectivement il y a quatre grandes séquences dans l'ouvrage. Et donc pour l'organisation aussi, on était trois historiennes à travailler dessus. Donc une première historienne a travaillé vraiment sur la première partie qui sont les prémices. Et donc les prémices permettent, c'est vraiment la période de l'émergence, de la naissance de ce mouvement dans un vaste et complexe pilier chrétien qui se structure avec une optique sociale assez forte au début du XXe siècle. Et puis on a une deuxième partie qui concerne plus l'entre-deux-guerres. Donc là, une autre historienne du CAROP s'est attelée à cette tâche. Et donc la partie de l'entre-deux-guerres, c'est vraiment la structuration des ligues. Donc les ligues sont nées et donc les ligues ouvrières féminines chrétiennes, qui sont donc l'ancêtre de Vie féminine, commencent à vraiment se structurer, à faire du recrutement, à créer des services, de nombreux services pour les femmes, pour leurs membres et pour les aider. C'est des services sociaux, des services éducatifs. Et donc ça se développe. Et puis on a identifié une troisième période qui est donc la période d'après-guerre, où là on quitte progressivement, mais assez lentement, l'optique familialiste du mouvement pour mettre vraiment la femme au centre du récit, au centre de l'action. Et c'est à la fin de cette période que les ligues ouvrières féminines chrétiennes vont quitter ce nom pour devenir Vie féminine. Et puis, la dernière période, c'est plus un mouvement militant et social qui va émerger jusqu'au tournant féministe de 2001.
Et effectivement, on voit que la première période, c'est vraiment ancré aussi dans le local, c'est en lien avec les paroisses. Est-ce que vous plutôt avec les dames aussi de la noblesse ou de la bourgeoisie qui veulent faire des bonnes œuvres avec les femmes plutôt de classe populaire. Comment ça s'est passé un peu
à ce moment-là, donc le mouvement émerge vraiment en 1920-1921. Et effectivement, à ce moment-là, parmi les dirigeantes, on trouve beaucoup de femmes issues de la noblesse ou de la bonne bourgeoisie. Et ces femmes vont vraiment aider à construire le mouvement, parce que les personnes qu'elles vont viser, les membres qu'elles vont viser, c'est la classe ouvrière. Mais le mouvement n'a pas mille moyens pour permettre la formation de ses membres. Et donc les femmes issues de la bourgeoisie et de la noblesse vont jouer un rôle pour recruter ces femmes issues de la classe ouvrière et pour aussi participer à leur formation. Et donc c'est vraiment un enjeu du mouvement viser les femmes de la classe ouvrière. C'est une époque assez familialiste, donc l'idée c'est de former les femmes dans les valeurs chrétiennes et aussi de participer à, il y a quand même cette idée de mettre les femmes au centre de l'action. Et c'est, donc cette période, les femmes issues de la noblesse vont jouer un grand rôle.
Et effectivement, vous évoquiez la question de la formation aussi. C'était vraiment important de pouvoir former les jeunes femmes aussi à leur futur rôle, mais plutôt, comme vous disiez, familialiste, leur rôle au sein de la famille.
C'est ça. Donc, à cette époque-là, les femmes sont envisagées comme étant le pilier de la famille. Il y a une idée aussi de rechristianiser la société en partant de la famille, et donc la femme étant au centre de la famille, elle peut. Enfin, l'objectif, c'est qu'elle puisse influencer les enfants, le mari. Et donc c'est un peu aussi l'idée d'éviter le fait que les idées socialistes se propagent de trop. Donc oui.
Et donc c'est effectivement à la fois la formation religieuse, donc il faut continuer à ce que les femmes soient de bonnes chrétiennes et continuent à pratiquer leur foi, et il y a aussi la formation ménagère. Et donc c'est vraiment, on voit que c'est les prémices de l'action d'éducation permanente féministe, qui est celle de vie féminine actuellement. Oui, que oui. Ça a toujours été au centre de l'activité de vie féminine.
Oui, oui, c'est vraiment un des enseignements du livre, c'est ce rapport entre replacer dans une époque une vision assez traditionnaliste du rôle des femmes et des visées plutôt chrétiennes, et des outils qui sont potentiellement, en tout cas au regard d'aujourd'hui, assez novateurs de formation, etc. Et il y a tout le chapitre notamment sur l'entre-deux-guerres, il me semble, c'est celui-là qui fait état des outils, très très tôt, les outils qui sont encore les nôtres aujourd'hui, qui sont utilisés de façon renouvelée sur des nouveaux sujets, apparaissent exactement. Et donc c'est ce mélange-là qui est intéressant. Et la période des prémices, avoir des historiennes qui retravaillent dessus, ça a été très intéressant pour le mouvement de vie féminine, parce que on est très attaché et on continue d'être très attaché à la figure de Victoire Kapp pour sa force de caractère et son lien avec les femmes ouvrière, et ça fait effectivement beaucoup écho avec des dossiers qu'on traite aujourd'hui et des combats qu'on mène. Mais si on n'explique pas ces prémices dans toutes leurs nuances et par où ça passe, en fait, on ne comprend pas en fait le mouvement aujourd'hui. En fait, il y a eu plein d'autres étapes qui nous ont menés là où on est aujourd'hui. Et donc avoir ces nuances-là, ce travail d'archives des historiennes a été d'une richesse incroyable. Et donc de comprendre comment on est, à quel public on s'adresse. Enfin, on parle aujourd'hui de public, c'était pas le terme à l'époque. À quel public on s'adressait au départ, et comment progressivement les objectifs, les vecteurs d'émancipation et l'organisation a bougé vers ce qu'on est aujourd'hui. C'est extrêmement intéressant.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir justement comment l'ensemble du mouvement ouvrier s'est constitué justement après la Première Guerre mondiale, avec les travailleurs et travailleuses, et donc le syndicat, mais aussi la jeunesse ouvrière chrétienne, et donc la frange féminine qui s'est mise en place aussi, et de voir justement comment ça ça a eu des implications sur les publics, comme vous disiez, que les ligues voulaient toucher, et puis comment justement il y a eu un objectif de diversifier et d'élargir le public auquel s'adressait ce mouvement de femmes qui est par la suite devenu un mouvement féministe, non sans beaucoup de discussions.
Oui, c'est ça. Donc, à la période de l'entre-deux-guerres, l'enjeu est vraiment prioritairement mis sur le recrutement. Et donc, toucher un nombre conséquent de femmes issues de la classe ouvrière. Et dans ces dynamiques, elles se sont. Enfin, l'optique est aussi de pouvoir attirer les nouvelles générations pour pouvoir renouveler le mouvement. Et donc, c'est quelque chose qui va rester à l'esprit. À l'esprit du mouvement, et ça va prendre une tournure plus précise vers la fin de l'entre-deux-guerres, donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Elles vont commencer à se dire qu'il faut renforcer les liens avec la jeunesse ouvrière féminine chrétienne pour qu'elle continue, enfin que le passage des jeunesses ouvrières féminines chrétiennes aux ligues ouvrières féminines chrétiennes se fasse de manière plus fluide. Et cette démarche va être utilisée pendant avec l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale. Le fait d'avoir mis en place cette démarche, elles vont savoir s'en saisir pour pouvoir continuer à faire ce recrutement et à exister pendant la guerre et à renouveler les membres. À savoir trouver des dirigeantes qui puissent s'occuper des localités malgré les restrictions dues à la guerre.
Et justement, vous parliez de localités, c'est un mouvement qui a toujours mis en avant le fait d'être organisé aussi au niveau local avant d'être un mouvement national. Et donc, justement, comment s'est organisé ça? Est-ce que ça a été facile, justement? Est-ce qu'il y a eu des régions qui étaient plus développées, où c'était plus actif?
Ça n'a pas été simple partout, parce que en fait, donc ce mouvement a émergé essentiellement au niveau local. Donc plein de localités ont créé leur ligue, et l'idée après était vraiment de centraliser, de coordonner tout ce mouvement, et tout en permettant à ce que chaque localité garde quand même une certaine autonomie. Donc il y avait un peu cette contradiction, tension, mais le mouvement a réussi à dépasser, notamment en faisant mettant en place toute une structure démocratique qui permettait à ce que de représentante en représentante, la parole circule dans le mouvement, et que l'objectif était vraiment qu'au niveau de la nationale ne soit pas coupée des réalités de ses membres. Et donc ils ont vraiment mis en place une structure qui permette ces échanges entre le local et le national.
Oui, c'était aussi une jolie découverte dans ce travail historique, c'était de se rendre compte que ces questions qui sont encore très actuelles, en fait, de la centralité des réalités de vie des femmes, de la parole des femmes, de ce travail au niveau local, là où les choses se passent vraiment en éducation permanente féministe dans les groupes, comment lui donner de l'ampleur, comment garder cette force-là dans le rapport avec la structure plus grande d'un mouvement social de grande ampleur, avec des structures au niveau du secrétariat national, etc. Et de se rendre compte que ce ne sont pas des questions qui sont neuves. Ça nous paraît, comme tu dis très bien, contradiction, tension, mais en fait c'est le cœur de l'éducation permanente et aujourd'hui permanente féministe, et c'est pour ça que cette période-là, elle est absolument formidable dans l'histoire, parce qu'on se rend compte, cette période de l'entre-deux-guerres, mais après, que on a l'impression que c'est des questions neuves de se demander comment améliorer les conditions de participation des femmes, comment leur permettre les conditions d'émancipation dans une société qui les précarise, qui les éloigne de leurs droits, etc., etc. Comment faire, etc. Mais en fait, et comment faire que plein de femmes nous rejoignent. Et en fait, c'était des questions qui ont été posées durant toute l'histoire, même quand il y avait énormément de monde et de membres, même quand les communications, en tout cas, avaient l'air éventuellement plus simples. cette question de rapport entre local et national, ces questions de participation, ces questions de centralité de la parole des femmes et des expériences de vie, ça traverse vraiment toute l'histoire et ça nous décomplexe un peu pour aujourd'hui, parce qu'en fait on va vers un congrès où ces questions vont être à nouveau centrales et on se dit en fait il y a... C'est pas qu'on n'arrive pas à y répondre, c'est en fait qu'il n'y a jamais de réponse toute faite et qu'il faut à chaque fois s'adapter au contexte de société pour permettre cette participation. Et l'autre chose sur laquelle je voulais revenir, cet ancrage dans la localité, on a, avec le confinement, on a vraiment vu la plus-value, et on n'en doutait pas, mais de cet ancrage dans la localité, parce que très très vite, dans toutes les régions où Vie Féminine est implantée, et malgré l'interdiction de se voir, de sortir, de se réunir, il y a tout un réseau de liens qui s'est très vite remis en place, dans le respect des règles, etc., dans les espaces de liberté, de façon virtuelle, dès qu'on a pu aller se promener à deux ou à trois, l'éducation permanente féministe est aussi passée par là. Et c'est cet ancrage dans la localité, avec des partenaires, d'autres associations, etc., qui fait que on n'a pas du tout perdu le lien et que ce rapport positif du local au national a pu jouer parce que tout d'un coup, on a été très très vite connectés aux réalités de vie des femmes en confinement. Les plus dramatiques, les constats qu'on pose aujourd'hui, l'augmentation des violences, la précarité, la charge mentale, la charge des enfants, etc. Tout ça a très vite circulé dans le mouvement et donc ça nous a permis de ramener ça aussi dans le débat public assez vite. Et donc revenir sur cette histoire et voir comment ça se joue dans l'histoire et en tirer le constat que c'est vraiment une force, c'était extrêmement intéressant. Et encore une fois, quand je parlais des outils qu'on utilisait avant et qu'on utilise encore, il y a l'enquête qui est assez centrale. Et pour l'instant, on a mené et on mène encore une enquête sur... quelles ont été les réalités de vie des femmes en confinement et comment on a redéfini les pratiques de l'éducation permanente dans ce contexte-là, en fait.
Et justement, quand vous parlez d'enquête, vous parlez pas d'une personne qui va enquêter, c'est un véritable processus d'enquête populaire que vous avez mis en place avec vos membres.
Oui, oui. L'enquête, elle se joue de plein de façons différentes hein, dans notre travail. On peut considérer que chaque groupe de femmes qui se réunit pratique l'enquête parce qu'elles parlent de leur réalité de vie, elles en sont les expertes et elles les analysent et elles en tirent des constats collectifs et ça les mène vers l'action. Donc ça prend pas toujours la forme d'un grand dispositif avec des méthodologies et une publication à la fin, mais aussi quand on déploie ce genre de dispositif, c'est avec les femmes. Elles participent aux méthodologies et notamment cette enquête de nos pratiques sur nos pratiques durant le confinement, c'était avec les femmes du mouvement. Elles ont expliqué ces pratiques avec les travailleuses, avec les femmes, avec le bureau d'études, avec en fait on se met autour d'une table et on en sort des conclusions. Et donc ça c'est quelque chose qui est central et qui précède l'éducation permanente, et pas que l'enquête, mais l'éducation permanente féministe précède toutes nos positions, toutes nos entrées dans le débat public sur un sujet. C'est aussi des dispositifs d'enquête lorsqu'on documente, il y a quelques années, le fait que la police ne prend pas les plaintes des femmes lorsqu'elles viennent pour signaler des violences ou les prennent très mal et à géométrie variable. Tout ça aussi, ce sont des dispositifs d'enquête. La même chose sur l'utilité des allocations familiales ou sur les vécus de la maternité aujourd'hui. Ça précède, ou dans n'importe quelle interpellation au niveau local, avant d'aller qu'un groupe de femmes se décide à interpeller leur commune sur un sujet ou l'autre, c'est vraiment une analyse collective des réalités de vie des femmes qui prend cours, avec de l'alimentation, parce qu'il n'y a pas que l'enquête qui est encore centrale aujourd'hui et qu'on voit apparaître très tôt dans le livre. Il y a aussi la formation, il y a le magazine qui est devenu Axel aujourd'hui. Tout ça sont encore des outils très très forts.
Et ce qui m'a interpellée dans l'ouvrage aussi, c'est vraiment qu'on pourrait, en lisant cet ouvrage, connaître toute l'histoire en fait du 20e siècle, tant ça a toujours été interconnecté, les réflexions qui imprégnaient le mouvement étaient des réflexions complètement actuelles. Et donc on parlait de l'entre-deux-guerres, c'était un moment où les femmes n'avaient pas accès au vote. Il y avait toutes les discussions aussi sur savoir le lien avec les partis politiques que les femmes pouvaient avoir. Et puis une fois qu'il y a eu cet accès au droit de vote, les choses ont changé aussi. Les revendications sont sorties de la famille, sont sorties de la maison pour le mouvement des femmes vie féminine.
Oui, c'est ça. Elles ont toujours été très, très attentives à toutes les questions sociales et féminines qui concernaient les femmes. Et donc, c'était en réalisant cet ouvrage, on était d'office collés à une bonne partie de l'histoire des femmes au XXe siècle en Belgique. Et donc, oui, il y a la question du politique qui revient, avec laquelle... elles essayent de ne pas être mêlées. En tout cas, elles essayent de ne pas être associées à un parti politique. Enfin, elles ne veulent pas. Parce que, pour éviter des tensions dans le mouvement pendant l'entre-deux-guerres, c'est la crainte que des femmes dont le mari est socialiste, enfin, ça pourrait créer des tensions. Et après-guerre, il y a vraiment après Deuxième Guerre mondiale, une optique missionnaire qui se développe dans le mouvement. Donc, l'idée, c'est de partir en mission dans les quartiers et de, mission chrétienne et de toucher les classes populaires dans cette dynamique et donc du coup le mouvement ne veut pas être enfermé dans une image trop associée au PC, au Parti catholique qui est devenu PSC après guerre. Et donc il y a toute cette évolution. Dans les années 70, où il y a les femmes s'affichent plus sur la scène publique, la vie féminine, du coup, qui s'appelle vie féminine à ce moment-là, va mettre en place des formations pour les membres, des formations politiques pour réfléchir à toutes ces questions-là.
Après la Seconde Guerre mondiale, comme vous disiez, il y a eu aussi cette nécessité à un moment, je ne sais plus où, vous dites qu'il y avait le même nombre que la Seconde Guerre mondiale n'a pas affecté le nombre de ligueuses.
C'est ça. Donc, l'entrée en guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un choc. Mais le mouvement va vraiment tenir bon pendant cette période. La période de l'entre-deux-guerres, c'était vraiment une période de centralisation. Donc, l'idée était vraiment de regrouper les ligues au sein des fédérations régionales et au sein de la nationale. Avec la guerre, ce mode de fonctionnement devient plus compliqué, notamment en raison des interdictions dues à l'occupant, puis aussi dû au fait que les déplacements étaient compliqués dans la Belgique occupée. Et donc le mouvement va mettre en place une pratique plus de décentralisation et en insistant du coup beaucoup sur la formation des personnes qu'on appelait les sectionnaires, donc c'était les leaders de sections, donc chaque ligue avait plusieurs sections. Et donc, pour pouvoir en fait garder le contact avec le terrain, mais plus via les sectionnaires. Et le mouvement va aussi devoir se faire beaucoup plus discret. Le journal La Ligue des Femmes, qui est donc l'ancêtre d'Axel, qui est créé quasiment en même temps que le mouvement, va devoir disparaître pour éviter de devoir subir la censure de l'occupant. Et donc le mouvement va tenir parce qu'il va continuer à être très présent sur le terrain, donc via la formation, comme j'ai dit, mais aussi via toute une série d'actions d'entraide et d'aide sociale sur le terrain. Elles vont être très présentes dans toute une série de structures d'aide aux réfugiés, de lutte contre l'envoi au travail forcé en Allemagne. Et donc le mouvement vraiment va sortir de la Deuxième Guerre mondiale avec exactement le même, enfin quasiment, mais on peut dire exactement le même nombre de membres qu'à l'entrée en Première Guerre mondiale. Et donc l'enjeu, évidemment, au sortir de cette Deuxième Guerre mondiale, ça va être de remettre le mouvement en mouvement. Et donc les ligues se retrouvent, puisqu'elles ont été un peu dispersées dans leurs activités à ce moment-là. Et donc l'enjeu pour le mouvement va être de se recentraliser un peu au sortir de la guerre.
Et juste après aussi, il y a deux thématiques qui émergent, en tout cas qui sont traitées, qui sont toujours d'une cruelle actualité. C'est la question de la conquête du temps pour soi des femmes qui est toujours traitée actuellement, et aussi la question d'une allocation pour la mère au foyer. Et donc, on peut voir que c'est des thématiques qui continuent d'être d'actualité, en fait, traitées plus ou moins, de manière plus ou moins approfondie. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu une évolution, que ça imprègne toujours la réflexion du mouvement ?
Oui, c'était aussi une des choses intéressantes dans ce travail historique, c'est de se rendre compte que des thématiques qu'on croit ou qu'on pense très actuelles ont été travaillées de façon certes très différente qu'aujourd'hui, mais à l'époque, dans cette question du loisir, du temps libre, il y a deux choses qui nous ont intéressées dans le travail des historiennes, c'est de se dire, eh bien, ce temps libre, il arrive, c'est une révolution de société, et comment un mouvement comme l'ancêtre de Vie féminine et Vie féminine, a aussi joué le rôle de digestion, en fait, de ces évolutions de société, et qu'on trouverait aussi des archives intéressantes dans nos archives pour traiter de cette histoire-là au départ des femmes. Et aussi, oui, il y a plein de chouettes illustrations dans le livre sur ça, et tout le propos sur le temps pour soi, ça nous fait forcément penser à la question de la charge mentale, comme on l'appelle aujourd'hui. Alors, mais on voit que c'est traité différemment, donc on est sur ces prémices-là. Il y a quand même une forte importance du rôle de la femme dans le foyer, dans ses tâches ménagères, etc. Mais il y a cet aspect très subversif et très actuel d'affirmation d'un besoin de temps pour soi. Et c'est quelque chose qui est encore une des revendications des femmes du mouvement aujourd'hui, parce que on pense dans les revendications que les femmes portent dans les activités, on pense en termes de droits existants à améliorer, mais elles ont la créativité et l'audace d'amener des besoins et des droits qui n'existent pas encore et qui ne sont pas nommés, comme le droit au temps pour soi par rapport à tout le travail du cœur, du soin aux autres, etc., etc. Donc oui, il y a, c'est aussi une des découvertes dans ce travail en profondeur dans les archives. Il y a dans les archives de Vie féminine des tas d'archives sur des tas d'évolutions de société et de sujets importants dans la vie des femmes, mais aussi plus globalement, qui se trouvent là, parce qu'on voit aussi ces années-là la question de l'environnement, la question de la consommation, comment être des consommatrices responsables, etc. Et oui, ce sont des questions qui accompagnent encore jusqu'à aujourd'hui. Et sur la question de l'allocation des mères au foyer, mais je laisserai Amélie en parler pour dire comment ça s'est joué, mais on a été très interpellés de pouvoir aller revoir cette histoire qui est liée comme ça à un rôle assez traditionnel de la femme. Et encore, on n'a toujours pas vidé ce débat féministe de l'allocation de la femme au foyer, donc je ne prononcerai pas sur la question, mais en tout cas, à l'époque, c'était ancré pour Vie féminine dans un rôle un peu particulier de la femme, et avec des moyens d'action et de positionnement dans la sphère publique assez subversif, je ne sais pas si on peut dire ça. Et donc c'est ce cocktail d'étonnant que montre souvent le livre, qui est intéressant et qui apporte plein de nuances, en fait.
Oui, c'est le débat sur et la revendication sur l'allocation de la mère au foyer est assez intéressant pour comprendre l'histoire de Vie féminine, parce que dès l'entre-deux-guerres, enfin vraiment dès les débuts, Vie féminine met un accent sur l'obtention de moyens suffisants, de moyens financiers suffisants pour les familles ouvrières et populaires, mais dans le même temps, elles ne veulent pas que la femme mariée travaille, parce qu'elle doit son rôle est au sein du foyer, en tant que chrétienne et en tant que femme. Et cette position, cette revendication est toujours d'actualité au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a aussi un autre argument qui est amené par les militantes de cette époque, qui est que le travail en usine, parce que donc elle ciblait les femmes issues des milieux ouvriers, le travail en usine était très rude. Et donc l'idée était, en même temps que cette revendication chrétienne, était en même temps de protéger les femmes des conditions du travail à l'usine. Et c'est dans ce contexte que émerge, mais les ligues ouvrières féminines chrétiennes ne sont pas les seules à avoir cette revendication. Et c'est donc dans ce contexte qu'émerge cette revendication-là, à sortir de la Deuxième Guerre. Et en fait, en 1955, il y a une volonté de recul du gouvernement qui tend à vouloir supprimer cette allocation. Et donc, là où Vanessa parle des moyens d'action parfois un peu subversifs, les ligues vont tout de suite réagir et décider de faire une manifestation sans prévenir la police et en zone neutre à Bruxelles, donc ce qui est doublement interdit, et vont du coup aller là-bas pour revendiquer le maintien de l'allocation de la mère au foyer, et elles vont être reçues tout de suite par le Premier ministre. Donc ça montre aussi que c'est un mouvement qui a du poids dans la société belge de cette époque. Et l'intérêt aussi de l'analyse de cette revendication sur l'allocation de la mère au foyer, et aussi de voir un peu l'évolution du rapport au travail salarié des femmes de la part du mouvement. Elles ont toujours revendiqué le travail égal, salaire égal, mais au sortir de la Deuxième Guerre, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Il va y avoir un groupe chez les dirigeantes qui sont issues notamment de la JOCEF, donc Jeunesse Ouvrière Féminine Chrétienne, qui vont de plus en plus travailler à amener cette idée de l'importance du travail salarié pour les femmes. Et le premier angle d'attaque qu'elles vont utiliser pour essayer d'amener cette idée auprès des membres sera de valoriser l'enseignement professionnel pour les jeunes filles. Et donc l'idée était vraiment de sensibiliser les membres à ce que les jeunes filles, les femmes, aient une formation suffisante pour pouvoir accéder à des métiers de qualité et pas des métiers durs et sous payer. Et donc c'est par là qu'elles vont passer en premier lieu pour amener les membres à s'intéresser à cette question-là. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est la différence de génération. Donc les militantes de l'époque expliquent que ce que les mères n'acceptaient pas pour elles-mêmes, elles l'acceptaient mieux pour leurs filles, le fait qu'elles soient mieux formées à tout ça.
Et je vois que le temps passe en fait, et donc je suis en train de me dire quelles sont les thématiques qu'il faudrait encore aborder. Il y en a tellement, et c'est un mouvement tellement riche, mais il y a un aspect qui m'ont beaucoup marqué, c'est le fait que dès 55 aussi, certaines femmes ont été en Afrique, ont été au Congo rencontrer d'autres femmes, que ça a eu aussi qui a aussi une volonté de s'ouvrir et d'attacher une grande importance aux femmes migrantes aussi, qui sont issues soit de la migration italienne, et de s'attacher à ça. Et donc cet aspect international aussi, que ça a jamais été, enfin, que ça a très vite été un mouvement qui était tourné vers l'extérieur, et aussi bien en allant au Congo qu'en participant à la marche mondiale des femmes de 2000. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est d'actualité, ce regard aussi vers les femmes d'autres pays et d'autres horizons?
Oui, et c'est quelque chose qui est encore d'actualité, parce que très souvent on a des moments de connexion et d'inspiration pour renouveler nos pratiques qui viennent de l'extérieur. On a travaillé sur la notion d'éducation permanente féministe et sur d'autres choses avec des féministes au Québec. On a pris le temps de la réflexion pour s'ancrer dans le mouvement de grève du 8 mars, et ça a été fait sur invitation des féministes espagnoles pour nous inspirer dans ces pratiques-là, etc. Et donc ces moments de connexion sont toujours extrêmement, extrêmement importants. Et cet ancrage dans la vie des femmes issues de l'immigration qui est historique, parce qu'on était un mouvement tel qu'on était ancré dans le milieu ouvrier et que ça a donné ces connexions-là, ont été vraiment des moments d'enseignement pour le mouvement avec des essais et des essais-erreurs, etc., et des réussites et des choses sur lesquelles on pose plus le même regard aujourd'hui sur la question qui nous occupe aujourd'hui. Un des gros dossiers, c'est comment être un mouvement féministe, solidaire entre toutes les femmes et aussi s'inscrire dans des pratiques antiracistes, etc., et ce qui divise les femmes entre elles, etc. Donc tout ça sont des choses qui nous occupent vraiment aujourd'hui et qui viennent de cette histoire à la fois d'inspiration de mouvements internationaux extérieurs et à la fois de confrontation sur nos pratiques et sur par rapport à la diversité de nos publics et de ce qui peut diviser les femmes entre elles et comment ne pas être un mouvement maternaliste vis-à-vis des femmes issues de l'immigration, etc. Parce que cette histoire-là, on n'a pas mis l'angle là-dessus dans le livre, mais il y aurait toute une histoire à faire avec des nouveaux outils de l'histoire décoloniale, qui adopte ces grilles d'analyse-là sur ce rapport des féministes en Belgique, à l'international, comme on dit, mais dans les colonies, en fait. Et donc, on a posé une petite pierre dans ce livre-là, mais c'est quelque chose qu'on garde en tête sur le travail actuel, à la fois d'inspiration de mouvements internationaux, et on voit que ça a joué dans des tournants dans le mouvement, à chaque fois qu'on s'est nourri de l'international, de construction de solidarité égalitaire entre les femmes aussi.
Et justement, il y a ce travail d'essai-erreur, mais le temps de la réflexion, est-ce que justement cette capacité du mouvement à prendre le temps de mûrir ces réflexions, est-ce que c'est quelque chose qui vous caractérise à vie féminine, justement, que ce soit il y a 100 ans ou là maintenant, enfin plus régulièrement, vous avez évoqué la grève du 8 mars ou vie féminine, c'est toujours a toujours pris ce temps.
Oui, et on en parlait avec Amélie, en fait, elle avec son regard historique et nous aujourd'hui, c'est vraiment une caractéristique et le livre permet de réexpliquer aussi cette caractéristique à l'extérieur, parce que souvent dans le champ des mouvements sociaux, associatifs, etc., on peut nous attendre sur des positions, mais en fait la position ou l'action, c'est une des conséquences très importantes, en fait, de tout le travail de participation, de mobilisation. Et le cœur du travail, c'est l'éducation permanente. Et un des chapitres, on n'aura peut-être pas l'occasion d'évoquer ici, qui montre ça, c'est tout le chapitre sur comment VF a rejoint la position de dépénalisation de l'IVG. C'est-à-dire que la position, elle arrive à un certain moment, un peu tard dans le débat public, mais on a fait bouger les lignes de tas de femmes, on a construit et tricoté des solidarités, et c'est ça le cœur du travail, en fait. C'est ça le cœur du travail, et la position, c'est le résultat positif de ça, mais en fait, tout le travail, il a lieu avant, de faire bouger des lignes, et que les femmes se sentent, et les femmes parfois les plus éloignées de la participation et de la militance, etc., se sentent embarquées et légitimes dans la participation et bougent par rapport à leur vision de société, s'équipent, s'alimentent l'une l'autre, etc., etc. Et donc le livre, et revenir sur cette histoire, nous permet aussi de réexpliquer la particularité de ce travail, en fait, qui explique après comment on arrive sur certains sujets et quand on y arrive.
Eh bien, effectivement, on pourrait encore en parler une heure, mais je vous conseille plutôt de vous procurer l'ouvrage. Je le montre comme si, comme si j'étais à l'écran. Je ne m'avance pas trop, on peut bien se le procurer
Oui. Je ne pourrais pas, je ne me suis pas préparée à redonner l'adresse mail à laquelle le commander, mais les infos sont disponibles sur le site internet de Vie Féminine et on peut se le procurer, se l'acheter, etc.
Donc, oui, je pense que sur le site du CAROP aussi, il y a toutes les infos.
Il y a des infos aussi, oui, sur le site du CAROP.
Voilà. Vanessa et Amélie, merci infiniment d'être venues nous parler de cette riche histoire. Merci du travail effectué aussi, de ce travail de mémoire du mouvement des femmes. Nous, on se quitte. Vous retrouvez dès 9h Radio Mukambo avec une spéciale programmation femmes. Merci encore à toutes les deux et bonne journée aux auditeurs, auditrices. Restez à l'écoute donc de Radio Panique avec Radio Mukambo, spéciale journée internationale des droits des femmes. Et puis les émissions habituelles du mercredi. Il y aura aussi un talk from Homographia avec, je pense, plein de sons qui a été enregistré hier aux manifestations et aux mobilisations du 8 mars. Bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine.